Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Bellière et avec jusqu'à 20h, la garde des Sceaux qui reste avec nous, Nicole Belloubet, vos questions au 3921 et sur le hashtag Europe 1.
Il y en a beaucoup, donc je vais m'effacer, mais avant toute chose, Nicole Belloubet, un point à éclaircir avec vous, une notion que les auditeurs d'Europe 1 ont mieux compris grâce au travail de la rédaction de Salomé Legrand, en l'occurrence dans la matinale aujourd'hui. Ces derniers mois, dans trois dossiers différents, des Français partis combattre en Syrie et rentrés sur le territoire national ont été relaxés du chef d'association de malfaiteurs terroristes. Ils n'avaient pas rejoint l'État islamique, mais deux autres groupes que ni l'ONU ni l'Union européenne ne classent comme terroristes. Il y a aussi le cas d'un homme qui a fourni des armes à Mohamed Merah, qui avait d'abord été condamné à 14 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes, et finalement requalifié à une condamnation de 10 ans parce qu'on n'a pas retenu le critère de terrorisme. Est-ce qu'il faut préparer l'opinion au fait que certains djihadistes, comme nous on dit peut-être un peu vite dans les médias, que certains djihadistes ne seront pas considérés comme des terroristes?
Écoutez, les juges, je crois, font un travail extrêmement sérieux et sont assez intransigeants sur l'application qui est faite de la loi et donc des peines à partir du moment où les éléments constitutifs de l'infraction d'AMT, comme disons dans notre jargon, c'est-à-dire association de malfaiteurs terroristes, sont réunis. Je crois qu'il y a une véritable vigilance sur ce sujet-là. Et majoritairement, les personnes qui partent sur les terrains de combat et qui y sont allés, soit ou qui avaient clairement manifesté la volonté d'y aller, sont reconnus et inculpés du chef de cette infraction. Vous savez, nous avons vraiment le souci de prendre ces éléments en compte de manière extrêmement ferme, et la preuve en est, c'est que nous venons de créer un parquet national antiterroriste qui entrera en application le 1er juillet prochain. Et ce parquet national antiterroriste, qui sera donc distinct du parquet de Paris, actuellement c'était le procureur de Paris qui avait en quelque sorte les deux casquettes, il était et procureur de Paris et il avait en charge l'antiterrorisme, donc ce parquet qui sera distinct, autonome, permettra d'être une véritable force de frappe dans ce domaine-là. Donc on a une véritable volonté d'avancer sur ce sujet.
Nicolas est en ligne avec nous, il sera le premier ce soir au 39-21, surveillant pénitentiaire. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Votre question pour Nicole Belloubet, Nicolas.
Alors j'aurais déjà une observation sur l'intervention de Madame la Ministre. Elle a parlé de box vitrées qui sont dans les tribunaux. Donc déjà, si je ne me trompe pas, il y a une note qui demande à ce qu'il soit démonté dans différents tribunaux.
Si vous souhaitez que je réponde là-dessus, j'ai souhaité qu'il y ait une application proportionnée de ces box vitrées pour que les auditeurs comprennent, dans une salle d'audience, la personne qui est prévenue et qui comparaît, soit elle comparaît, je dirais, sans qu'elle soit particulièrement protégée, soit elle comparaît dans un système où elle est protégée par un box. Et ce box, évidemment, permet également d'éviter que les greffiers, les magistrats, mais aussi le public puissent faire l'objet d'agressions. Et j'ai souhaité qu'il y ait dans les tribunaux une utilisation équilibrée de ces box vitrées, parce qu'à la fois il faut préserver les droits de la défense, le droit à un procès équitable, mais en même temps assurer une véritable protection. Et par exemple, pour les procès terroristes, ils ont toujours lieu dans des box vitrées. Mais pour, disons, des infractions plus simples, il n'est pas forcément utile que les personnes prévenues se présentent dans un box vitré. Donc c'est là aussi le souci de la proportionnalité et de l'équilibre.
Voilà pour cette première question de Nicolas sur l'organisation dans les salles d'audience. Je sais que Nicolas avait une autre question concernant la sécurité des surveillants pénitentiaires. Vous allez pouvoir la poser, Nicolas, rassurez-vous, dans quelques petites secondes sur Europe 1, 19h28.
Europe 1.
Jusqu'à 20h, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, qui répond aux questions des auditeurs. Nicolas est toujours là. Sophie, Sandra, Damien également, vous appelez au 39-21.
Votre invité Mathieu Bellière jusqu'à 20h, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous posez vos questions au 39-21, 50 centimes la minute.
Et Nicolas est toujours avec nous, donc surveillant pénitentiaire. Vous êtes toujours là, Nicolas, hein ?
Oui, tout à fait.
Bon, votre deuxième question qui concernait les prisons, question pour Nicole Belloubet.
Oui, voilà. Alors, j'aurais voulu savoir s'il y avait des nouveaux portiques qui seraient prévus. Parce que les portiques actuels ne détectent que les masses métalliques et certains portables ne rentrent pas. Ils passent sous le portique sans sonner, et ainsi que tout ce qui est drogue et autres objets non métalliques.
Nicole Belloubet.
Alors la question que pose ce surveillant pénitentiaire est une question extrêmement importante. Nous avons en réalité différents types d'établissements pénitentiaires. Certains accueillent des personnes qui sont en fin de peine, qui se préparent à sortir et dont la dangerosité est présumée moindre. D'autres établissements pénitentiaires accueillent en revanche des détenus dont la dangerosité est jugée extrêmement élevée. C'est le cas à Condé-sur-Sarthe, dans l'établissement dans lequel nous avons eu des agressions il y a quelque temps. C'est également le cas à Vendin-le-Vieil, etc. Dans ces établissements-là, oui, nous allons mettre en place ce qu'on appelle des portails à ondes millimétriques, ou en tout cas, ou l'équivalent, qui nous permettent de détecter non seulement les masses métalliques, qui là sont détectées de manière systématique par des portiques qui sont présents dans tous les établissements pénitentiaires, mais qui en plus permettent de détecter soit des couteaux en céramique, soit effectivement d'autres matériaux. Donc oui, nous allons le faire. Je ne suis pas en mesure de le faire dans tous les établissements pénitentiaires, mais je le dis encore ici, tous les établissements pénitentiaires n'accueillent pas des gens avec le même niveau de dangerosité. Mais je me suis engagée sur Condé, par exemple, à faire cet équipement.
Condé-sur-Sarthe, cette prison Francis Dorfer qui avait pris en otage quatre surveillants pénitentiaires. D'abord, comment vont-ils ces quatre surveillants ?
Ces surveillants vont bien, si l'on peut parler de cela du point de vue physique. Évidemment, quand il y a des agressions de cette nature-là, et j'ai eu l'occasion de revoir des surveillants qui avaient malheureusement fait l'objet d'attentats de cette nature-là, psychologiquement, c'est toujours beaucoup plus long à se rétablir. Donc ça, c'est un point qui est auquel vraiment nous sommes très sensibles, et ils sont suivis, évidemment, par les personnes chez nous qui s'occupent de l'aide.
Il n'est pas question de reprise du travail dans l'immédiat. Combien de temps est-ce qu'on peut imaginer
c'est du cas par cas. Oui, c'est du cas par cas. De toute façon, nous sommes à l'écoute de ces personnes, y compris parfois dans une demande de changer d'établissement pénitentiaire. Nous sommes très à l'écoute, évidemment, des personnes qui ont subi de telles agressions.
Cet homme, ce détenu, Francis Dorfer, condamné, incarcéré depuis ses 16 ans, coutumier des prises d'otages, décrit comme dangereux. J'ai vu qu'il venait d'être placé en quartier disciplinaire. Oui. Il va retourner à Condé-sur-Sarthe ?
Écoutez, je ne suis pas là en mesure de vous dire exactement quelle sera la situation de cette personne. Il va de soi que nous sommes là dans une situation d'un détenu dont la prise en charge est très difficile parce qu'il y a à la fois des difficultés pathologique, psychologique, et donc une difficulté particulière dans la prise en charge. Et c'est évidemment le régime de ces personnes-là qui doit être suivi de très près, de manière individuelle, par chaque chef d'établissement pénitentiaire.
Merci Nicolas de votre appel au 3921. On va accueillir Sandra à présent. Peut-être qu'on reviendra sur la question des prisons un peu plus tard. Mais Sandra a une toute autre question. Bonsoir Sandra.
Oui, bonsoir Mathieu. Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Madame.
Votre question pour Nicole Belloubet.
Alors, dans l'hypothèse où un magistrat du parquet commettrait des actes infractionnels, quelles sont les voies de recours prévues par la loi et à qui faut-il s'adresser ?
Alors écoutez, l'acte de juger est, c'est vrai, difficilement contestable. La décision juridictionnelle est difficilement contestable. S'il y a des erreurs dans la forme, vous pouvez toujours évidemment demander au parquet général d'intervenir. Si ensuite on constate qu'il y a une faute qui a été commise par un magistrat, c'est à moi qu'il appartient de saisir le Conseil supérieur de la magistrature qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Merci Sandra.
Je rappelle que sur les magistrats du siège, je n'ai pas le pouvoir disciplinaire et que, évidemment, nous souhaitons également qu'il en soit de même pour les magistrats du parquet. Nous avions prévu dans la révision constitutionnelle qui est en cours mais qui n'est pas tout à fait aboutie.
Qui attendra les municipales.
Nous avions prévu de développer ce point pour les magistrats du parquet.
Avant 2022.
Mais certainement.
Certainement. Après les municipales, Nicole Belloubet.
En tout cas, je vais présenter. Je vais présenter la révision constitutionnelle en Conseil des ministres. Nous verrons le moment venu comment nous pouvons trouver un accord pour avancer sur ce point.
Damien est en ligne avec nous. Merci Sandra de votre appel. Damien est en ligne avec nous depuis le Maine-et-Loire. Il est infirmier. Bonsoir Damien.
Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Votre question, Damien. Bonsoir.
Je vous appelle, en fait, moi je suis vice-président d'une association de papa et maman séparés sur Angers. Et on voulait vous demander qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que cette législature compte faire pour l'évolution de la résidence alternée. Vous n'êtes pas sans savoir que la résidence alternée en ce moment progresse, notamment grâce aux séparations amiables. Toutefois, là où on a besoin de vous et des députés, c'est de, par rapport à la législation, qu'il faudrait qu'elle évolue en imposant une généralisation, après les textes restent à écrire, mais une généralisation de la résidence alternée dès l'audience, dès la première audience. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, elle est à la suite du grand débat qui a sollicité beaucoup de déceptions dans les parents séparés qui peuvent être représentés par des associations. Vous avez beaucoup parlé de pensions alimentaires, de familles monoparentales, de femmes à la tête de familles monoparentales. Donc autant nous sommes tout à fait d'accord sur le respect des pensions alimentaires, leur bon paiement, mais bien souvent il y a aussi une obligation de présenter les enfants, de ne pas s'éloigner. Le texte français est très clair. Le parent qui s'éloigne du lieu de vie de l'enfant doit perdre le droit de visite. C'est le parent qui doit avoir la garde de l'enfant. C'est très peu le cas en France, il faut le savoir. Il y a aussi des cas attends, très fréquents.
Attention, juste pour que Nicole Belloubet puisse vous répondre.
Il y a aussi des cas très fréquents de fausses accusations qui sont aussi encouragées par des avocats en France. Je voudrais que vous preniez conscience de ça et qu'il soit prévu des textes pour que ce soit très fermement sanctionné en France.
Alors, d'abord, voilà. C'est important pour le coup. Si vous souhaitez, merci. Damien, que Nicole Belloubet en prenne conscience, elle a entendu votre témoignage. D'abord, sur la généralisation de la résidence alternée.
Oui, il y a eu une proposition de loi en début de mandature qui a été déposée sur la généralisation de cette résidence alternée. Et dans les débats, il est apparu difficile d'imposer cela. Autrement dit, il appartient au juge de trouver la meilleure solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque c'est toujours ce qui nous guide, l'intérêt de l'enfant. Mais imposer une résidence alternée, ça n'apparaît pas toujours comme étant la solution la plus souhaitable. C'est parfois la meilleure solution dans un certain nombre de cas, mais ça n'est pas systématiquement la solution souhaitable. C'est la raison pour laquelle cette proposition n'était pas allée à son terme. Après, sur ce qu'évoque monsieur, sur la question des pensions alimentaires, nous avons beaucoup travaillé récemment pour que, effectivement, quel que soit le bénéficiaire de la pension alimentaire, il n'y ait plus que les impayés ne fassent plus l'objet des difficultés que cela entraîne. Et donc nous allons mettre en place, le président de la République s'y est engagé, un système de prise en charge des allocations familiales de sorte que le parent qui en bénéficie n'ait plus à subir les contre-coups, soit d'une allocation qui ne serait pas versée à l'heure, soit qui cesserait, et que les choses soient fluides et simples. C'est ce que nous mettons en place sans doute dès le début de l'automne prochain.
Merci Damien pour votre question depuis Angers au 39-21, 19h39. Europe 1. Avec Jean-Yves, nous reviendrons sur la situation dans les prisons. Une question pour Nicole Belloubet dans quelques secondes. Vous intervenez au 39-21 d'ici à 20h pour poser vos questions à la ministre de la Justice. À tout de suite.
Vous êtes avec Mathieu Bélière sur Europe 1 et vous échangez jusqu'à 20h avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vous composez le 39-21.
Jean-Yves est avec nous en direct depuis Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Mathieu.
Soyez le bienvenu sur Europe 1. Jean-Yves, votre question pour Nicole Belloubet.
Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Monsieur.
Je vous parle dans le cadre de la sécurité des personnes pénitentiaires. Est-ce que la mesure de fouille au corps est appliquée ou sera appliquée aux personnes qui visitent un détenu ?
Alors, là encore, je repars de ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous avons des établissements pénitentiaires qui accueillent des détenus dont la dangerosité n'est pas toujours la même. En revanche, dans les établissements qui accueillent les détenus qui sont considérés comme les plus dangereux, je me suis engagée à mettre en place les fouilles des visiteurs. C'est-à-dire que nous avons, pour éviter que des intrusions aient lieu, nous avons d'une part décidé que les visiteurs feraient l'objet de fouilles, donc le portique dont je parlais tout à l'heure, et d'autre part des palpations. Par ailleurs, pour les détenus, dans le cadre de la loi pour la réforme de la justice qui a été votée au mois de mars dernier, nous avons fait évoluer l'article 57, pardonnez-moi, les spécialistes connaissent cet article qui concerne les fouilles des détenus. Nous l'avons fait évoluer pour que, dans un certain nombre d'hypothèses, les fouilles soient rendues plus aisées, plus faciles, mais à condition évidemment de respecter ce que nous impose la Cour européenne des droits de l'homme en matière de dignité, de droits des personnes.
Il y a beaucoup de remarques, de questions, de messages aussi sur Internet sur la condition en prison, sur les moyens en prison. Oui. Les surveillants, évidemment, nos auditeurs ne supportent pas de voir des surveillants pénitentiaires
en
danger ou blessés. Oui. Une question plus large peut-être sur les moyens dont dispose la justice en France. Je me suis souvenu de ce que disait un de vos prédécesseurs, Jean-Jacques Urvoas, oui, qui parlait de clochardisation de la justice.
C'était ça. Et Jean-Jacques Urvoas disait dans le même temps que s'il avait 1 milliard d'euros en plus dans les 5 ans qui venaient, ça lui permettrait d'évoluer favorablement. Nous n'avons pas décidé de mettre 1 milliard, mais 1,7 milliard d'euros en 5 ans. Je ne suis pas en train ici de dire que tout va bien, que vraiment nous sommes dans une situation idyllique, mais cet effort consenti par le gouvernement est tout à fait important. Et cela se traduit par 2 choses. Ça se traduit d'une part par des recrutements supplémentaires de magistrats. Nous en avons besoin. Ça se traduit également par des recrutements supplémentaires de surveillants pénitentiaires. Nous allons recruter plus de 1100 surveillants pénitentiaires. Et d'autre part, ça se traduit également par quelques constructions supplémentaires de places de prison.
Je remercie Jean-Yves qui est avec nous au 3921. Un autre Jean-Yves sur le hashtag Europe 1. Je vais passer du coq à l'âne, et vous me direz, oui, que c'est le cas de le dire. Les intrusions dans les élevages se multiplient par des associations comme L214, nous dit Jean-Yves. Faudra-t-il un drame pour réagir? Quelles mesures comptez-vous prendre?
Alors, nous avons considéré, et j'ai écrit à l'ensemble des procureurs en ce sens, nous considérons que dès lors qu'il y a atteinte à l'outil de travail, qu'il y a atteinte à la liberté d'exercice du travail, il faut absolument que les procureurs prône une politique ferme. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et donc, nous avons, j'ai signé cette circulaire au procureur il y a environ 2 mois. Depuis, il y a eu des jugements qui ont été rendus par différents tribunaux et qui condamnent, vous savez, notamment les situations dans lesquelles les bouchers sont mis en difficulté, soit par des intrusions, soit par des manifestations, des jets de sang ou de faux sang sur leur vitrine. Il y a des sanctions qui sont prises dans ce cadre-là. Parce que, encore une fois, il y a atteinte à la liberté de travailler.
19h46. Europe 1. Un dernier tour de questions à suivre sur Europe 1. Je vois que Sophie veut vous parler de la PMA, puisqu'avec Agnès Buzyn et Frédéric Vidal, vous aurez à porter la loi de bioéthique qui arrivera, oui, à la rentrée. On va parler de la PMA dans un instant avec Sophie au 3921.
Votre invité Mathieu Bellière jusqu'à 20h sur Europe 1. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous posez vos questions au 3921.
La loi de bioéthique qui sera examinée au mois de septembre, à l'automne en tout, oui, cas. C'est ce qu'a dit le Premier ministre, oui, Édouard Philippe, ce qu'il a précisé dans son, absolument, discours de politique générale. Vous aurez apporté cette loi avec Agnès Buzyn et Frédéric Vidal. Vous, Nicole, oui, Belloubet, vous vous occuperez particulièrement de la filiation.
Davantage, oui, des questions de filiation, bien sûr.
Autour de la PMA, et on sait qu'il y a des questions, évidemment. D'abord Thierry, qui est en ligne avec nous en Haute-Garonne. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Europe 1, mon cher Thierry.
Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, madame la ministre. Ma question pose effectivement sur une question de filiation. Alors, j'ai bien compris dans vos précédentes interviews que dans la prochaine loi bioéthique, la filiation des enfants nés de GPA, de parents français à l'étranger, ne sera pas inclue. Oui. Et je voulais savoir ce qu'il en était. Je suis papa de 2 petites filles qui sont nées au Canada il y a 5 ans, oui, qui ne sont officiellement pas mes enfants. Elles ne sont pas sur l'état civil. Vous savez mieux que moi que le tribunal de Nantes est le seul compétent pour retranscrire les actes de naissance étrangers en droit français, ce qu'il refuse jusqu'à présent, malgré de nombreuses circulaires, y compris de votre prédécesseur, Madame Taubira. Comment cette situation va-t-elle évoluer, sachant que c'était une des promesses du candidat Emmanuel Macron en 2017?
Alors, écoutez, je peux difficilement, vous me pardonnerez, répondre à votre situation personnelle. Je suis prête à le faire, mais dans un autre cadre. Nous, ce que nous disons pour les enfants qui sont nés de GPA à l'étranger, c'est trois choses. Un, nous ne souhaitons pas, dans la loi bioéthique, ouvrir le sujet de la GPA parce que nous ne sommes pas favorables à l'ouverture de la GPA en France. Deux, en revanche, nous disons que les actes d'état civil des enfants qui sont nés à l'étranger doivent être retranscrits à l'égard du père dans notre droit et que l'autre parent doit passer par un système qui est un système de reconnaissance d'adoption. Nous considérons que l'établissement de la filiation pour le deuxième parent se fait par le biais de l'adoption. Trois, dans cette pratique-là qui est la nôtre en France, nous sommes conformes à ce que nous recommande la Cour européenne des droits de l'homme, qui vient récemment de prendre position sur ce sujet-là et qui dit qu'il importe de pouvoir établir à l'égard des deux parents une filiation qui soit effective et rapide, mais qui laisse après aux États membres le choix des instruments juridiques. Et donc, nous avons fait le choix, encore une fois, de l'inscription sur l'acte d'état civil et de l'adoption.
Alors, encore une fois, on peut le souligner, le rappeler, pas de GPA dans la loi de bioéthique à venir. Le Conseil constitutionnel n'estimera pas qu'il faut autoriser la GPA en France pour
non, mais
un principe d'égalité.
Le Conseil constitutionnel ne peut pas être proactif. Le Conseil constitutionnel, il juge un texte qu'on lui apporte. Il ne crée pas un texte parce qu'il manquerait quelque chose. Ce n'est pas dans son rôle.
Alors sur la PMA, précisément, pour parler de ce qui se fera, la PMA pour toutes, Sophie est avec nous en ligne depuis Nanterre. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Madame la Ministre.
Bonsoir Madame.
Moi je voulais intervenir sur l'accessibilité de la PMA aux femmes homosexuelles.
Oui.
Bon, je ne suis pas du tout homophobe puisque j'ai moi-même un fils qui est homosexuel, mais on remarque qu'on a tous autour de nous de la souffrance, de la maladie, de la mort qui approche. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument satisfaire des caprices de femmes qui sont en bonne santé, puisque voilà, elles sont pas malades.
Alors Sophie, juste une précision et je vous laisse terminer votre question. Ce qui vous pose souci dans la PMA pour toutes, c'est quoi ? C'est la PMA pour toutes en elle-même ?
Non, c'est pas pour les femmes. Il y a des femmes qui ont.
Ou le remboursement.
C'est le remboursement. Vous allez dépenser des fortunes.
C'est pas fait. Est-ce que Nicole Belloubet, vous êtes favorable au remboursement des PMA ?
Nous avons dit d'une part que dans ce choix et dans cette liberté que nous offrions aux couples de femmes ou aux femmes célibataires d'avoir accès à la procréation médicalement assistée, il y aurait remboursement, effectivement, de cet acte médical.
Sophie ?
Oui, c'est ça. Donc, moi, je me dis que le désir d'enfant, je comprends. Hein, l'amour pour un enfant, je comprends aussi. Mais il y a des tonnes d'enfants dans le monde, et même en France, qui attendent d'avoir de l'amour d'un parent. Donc, ce serait vraiment une très bonne chose si vraiment elles ont un tel désir d'enfant. Et ce serait pas, je vois pas pourquoi, vous pourriez pas mettre de l'argent plutôt pour la recherche contre le sida ou le cancer, ouvrir des centres pour des autistes, ou pour des centres d'accueil pour les gens qui ont Alzheimer, parce qu'on est vraiment au Moyen-Âge en France, plutôt que de permettre à des femmes homosexuelles d'avoir des enfants. Ça, je ne comprends pas la motivation du gouvernement, enfin de votre gouvernement pour faire ça.
Nicole Belloubet.
Je crois, madame, je comprends et respecte votre opinion, mais je crois que l'un n'est pas exclusif de l'autre. C'est-à-dire que la recherche sur la maladie d'Alzheimer fait l'objet de financements importants, de financements publics importants. Nous sommes là vraiment dans le respect de l'intime de chacun. Qu'une de ces femmes ou de chacun de ces couples, qu'il s'agisse de couples hétérosexuels ou de couples de femmes, nous voulons leur permettre de manière égale d'avoir accès à un enfant, à la possibilité d'avoir un enfant. Et donc, nous estimons que, dès lors, il peut y avoir un remboursement, si c'est vous m'interrogez là-dessus. Ce qui est important pour nous, c'est l'égalité. L'égalité entre les couples de femmes et les couples hétérosexuels qui ont recours à cette technique médicale qu'est la PMA, puisque aujourd'hui, vous le savez, la PMA est autorisée pour les couples hétérosexuels qui ont des problèmes d'infertilité. Mais au fond, nous voulons laisser les couples libres de choisir la manière dont ils souhaitent obtenir une filiation, que ça soit par voie génétique, que ce soit par utilisation de cette technique de la PMA, que ce soit par adoption.
Merci
c'est
Sophie.
Cette égalité qui est importante pour
merci
vous.
Sophie de votre appel au 39-21 ce soir. Désolé pour tous ceux qui ont voulu poser une question à Nicole Belloubet et qui n'ont pas pu passer. Vous reviendrez nous voir, Nicole Belloubet.
Volontiers.
La ministre de la Justice qui était avec nous depuis 19h, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Merci beaucoup. À très bientôt. Il est 19h56. Vous êtes sur Europe 1. L'heure de retrouver Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Salut, Mathieu. Ça va?
Comment ça va?
Formidablement bien. Ce soir, on va rigoler.
Qu'est-ce qu'on écoute?
Gossip. Pour fêter les 10 ans de l'album Music for Men, sur lequel on retrouve cette chanson.
Ça a 10 ans déjà.
Ouais, ça a 10 ans. Oui, je sais, ça m'a fait pareil. Oui. Un petit coup sec derrière la nuque, mais ça va mieux après. Et on danse donc ce soir avec Beth Ditto, chanteuse de Gossip, qui va nous parler donc de la tournée anniversaire des 10 ans qui passera par Paris au début du mois de juillet.
Avec Beth Ditto,
oui.
les 10 ans avec Émilie Mazoyer, belle soirée en musique jusqu'à 22h. À demain, Ambline.
À demain, 17h. Merci, Mathieu Belliard. Et à tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1.